Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, le magazine bimensuel de Radio Grand Ciel, entièrement consacré à la poésie vivante, c'est-à-dire celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Je vous rappelle que La Route Inconnue n'existerait pas sans le partenariat de la revue des charges, revue de poésie trimestrielle à laquelle, si ce n'est déjà fait, je vous engage vivement à vous abonner. Vous retrouverez en seconde partie d'émission d'ailleurs le directeur de publication et le créateur de la revue des charges, Jacques Morin, pour sa chronique mensuelle qui sera suivie de celle de Georges Catalot qui lui présentera sa rubrique poète présent, poète absent. Et enfin, eh bien, ce sera au tour de Louis Dubeau, poète, ancien éditeur au Des Bleus mythiques, enseigne de la poésie française de la seconde moitié du XXe siècle et qui nous présentera lui aussi un coup de cœur. Mais avant cela, eh bien, moi aussi j'ai un coup de cœur à vous soumettre. Il s'agit de l'éditeur Emmanuel Carou, créateur des éditions L'Hurlure, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'été dernier sur le marché de la poésie de la place Saint-Sulpice à Paris. Il va nous présenter donc sa maison d'édition, après quoi vous aurez le plaisir d'entendre des extraits d'un des derniers livres de la poétesse Mylène Tournier aux éditions L'Hurlure, bien évidemment. Mais tout de suite, Emmanuel Carou. On va remonter le temps, si vous voulez bien. Vous êtes d'où, tiens?
Alors, je suis d'un village à côté d'Orléans, en Beauce. Et maintenant, la maison d'édition et moi-même sommes à Caen, en Normandie, depuis quelques années. Voilà.
Alors vous avez grandi en Beauce, vous avez grandi en poésie. La poésie est entrée à quel âge dans votre vie?
Je pense adolescence, assez classiquement par Rimbaud, Baudelaire. Quoique le tout premier, je pense que c'est plutôt Jim Morrison, donc le chanteur des Doors.
Prière américaine.
Voilà, prière américaine, Wilderness et autres, enfin ces recueils de poèmes. Et puis après, retour à des choses plus classiques, Rimbaud, Baudelaire, voilà. Et puis de la poésie contemporaine après au lycée et l'envie d'en lire et d'en faire découvrir et donc de passer à l'édition proprement dite de poésie.
Ça vous me dites ça là en 5 secondes, mais ça n'a pas dû prendre 5 secondes quand même, hein. C'est-à-dire de la découverte de la poésie à l'aventure éditoriale. Il s'est quand même passé du temps, il y a eu des étapes, j'imagine, des étapes importantes de réflexion.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai d'abord travaillé comme assistant éditorial pour une autre structure, une maison d'édition qui s'appelle Sens et ton cas à Paris, qui publiait des livres de sciences humaines et de littérature, assez peu de poésie. Et j'ai été licencié économique en 2015 de cette maison d'édition et j'ai monté les éditions L'Hurlure dans la foulée. Voilà, vraiment dans la foulée, avec un premier gros livre qui est une anthologie qui s'appelait Cadavre grand m'a raconté du poète du Nord Ivar Chvavard. Il y a eu un blanc d'un an en 2016 et la maison d'édition est vraiment active depuis 2017. Là, je m'en occupe, j'essaye en tout cas de m'en occuper au maximum depuis 2017.
Vous êtes un vrai professionnel de l'édition.
Alors je sais pas si je suis un vrai professionnel de l'édition, mais en tout cas j'ai une formation, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une petite maison d'édition, donc c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, et étant donné qu'à notre niveau, pour les petites structures, on doit être polyvalent, parce qu'on fait autant de l'éditorial, enfin moi je fais aussi de la fabrication, de la mise en page, et même de la comptabilité, donc c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir un peu à différentes activités, pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
C'est un sacré défi de vouloir, autant pour un auteur d'ailleurs, de vouloir vivre de la poésie, mais qu'un éditeur aussi. Parce qu'on sait très bien que les ventes ne sont pas mirifiques, donc c'est une bagarre de tous les jours pour vendre de la poésie. Non ?
C'est vrai. Après, c'est vraiment une passion, donc ça aide, j'allais dire, et ça se fait presque naturellement, en fait. On a vraiment envie de faire découvrir les textes, de les faire vivre, exister, et puis il n'y a pas que nous, enfin, c'est surtout les auteurs, en fait, qui portent les textes, qui les font vivre après que le livre ait pris forme. Cela étant dit, pour être tout à fait honnête, moi j'ai gardé une activité à côté pour essayer d'équilibrer aussi les finances. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez pris lorsque vous étiez assistant éditeur? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? S'il y a des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, qui souhaiteraient de se lancer dans cette aventure?
Alors, je pense que c'est vraiment le goût de la découverte. Moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours tenu, c'est vraiment le découvrir des nouvelles voix, des nouveaux textes, et ensuite les faire partager. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est un processus qui est long. Il y a qui regroupe plein d'étapes. Mais s'il y avait vraiment une chose que moi je retiens du métier, c'est la lecture et le goût de découvrir des nouveaux textes. Et il faut un peu de hasard, un peu de chance, un peu de... Voilà.
Il faut se faire connaître aussi en tant qu'éditeur, parce qu'il y a une sacrée, on le voit ici, une flopée de maisons d'édition. Et le marché est loin d'être exhaustif en matière d'édition. Mais comment on se fait une place au soleil?
C'est une bonne question, non? C'est une bonne question. On le fait tous avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une diffusion distribution en externe, contrairement à d'autres éditeurs qui sont en autodiffusion, voire en autodistribution. Je travaille aussi avec deux personnes qui font de la surdiffusion, donc de la relation avec les libraires. Et puis après, c'est des salons, éventuellement un petit peu de vente en ligne, des animations, des lectures en librairie. Voilà, tout ce qui est possible pour faire vivre... vivre les livres, et il y a quand même pas mal de choses dans le domaine de la poésie. Ça, c'est pas du tout moribond, c'est vrai que ça reste assez confidentiel en termes de vente, mais il se passe beaucoup beaucoup de choses, autant en termes de création que de manifestation autour de la poésie, donc on a des opportunités d'exister.
Alors dans la poésie du XXe siècle, on a eu beaucoup d'éditeurs auteurs, et alors là, autant pour Maud que pour vous, pas de poésie écrite, vous n'avez pas été tenté de prendre là?
Alors, j'ai publié, mais je m'en vante pas. Je préfère largement être du côté de la lecture et de l'édition proprement dite.
Donc. Néanmoins, ce livre.
Alors c'est un livre qui a été publié aux éditions du Petit Flou, qui est un recueil de poèmes à partir de l'argot typographique. Et voilà, c'est juste un petit exercice de style qui m'a beaucoup amusé, mais qui ne m'a pas non plus donné envie de prolonger, renouveler l'expérience. Je préfère vraiment essayer d'aider, d'accompagner d'autres textes.
C'était un texte en rapport avec le métier, du coup, là?
Oui, tout à fait. Ouais, c'était avec la typographie. Bah, je suis un fondu typographie. Enfin, j'aime beaucoup la matérialité du livre, que ce soit dans le choix des papiers, le choix des caractères typographiques, la mise en page. Donc ça coulait de source un peu, et puis c'est un argot qu'on a complètement perdu maintenant puisqu'on a changé de procédé d'impression, mais donc au 19e siècle il y avait une vraie confrérie des typographes, donc ceux qui composaient les textes, qui n'étaient pas les mêmes, enfin qui n'étaient pas forcément les mêmes que les imprimeurs, et qui avaient un argot très très drôle en plus, enfin très vivant, et voilà, c'était il y avait vraiment matière à composer des petits poèmes. Voilà.
C'est un monde aussi, hein, le monde de la typographie, c'est presque, même sur le plan politique, le monde des typographes, des imprimeurs, etc., c'est pas anodin, je veux dire.
Non, ça, alors maintenant, ça, bon, comme pas mal de secteurs, ça bouge énormément, c'est fortement mondialisé, mais ça a été, en tout cas, c'est vrai, un monde politique, avec une vraie confrérie de typographes influentes, etc., et c'est vrai que c'était un monde assez passionnant, je pense, au 19e siècle, vivre, bon, on en a des échos à travers des textes de Balzac et autres, mais c'était une époque passionnante à vivre, je pense, dans ce métier-là.
Alors parlons de l'hurlure. Pourquoi l'hurlure, en fait? Oui.
Alors l'hurlure, bah, on parle d'argot, donc on y reste. Et donc je suis né en Beauce, et c'est un mot d'argot du Gâtinais, donc qui est une petite région, la mauvaise Beauce, on va dire, parce que la Gâtine, étymologiquement, c'est une mauvaise terre.
La Beauce pouilleuse, hein, c'est ça?
Oui, la Beauce pouilleuse, ouais, c'est la Gâtine, c'est la mauvaise terre. Et donc c'est ma grand-mère qui disait ça, que c'était faire quelque chose à l'hurlure, c'est ni fait ni à faire. C'est évidemment au deuxième degré, s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil simplement. Et puis la sonorité du mot, chercher un truc un peu naïf, et l'hurlure, c'était aussi un petit clin d'œil que personne ne peut deviner à Dada, des trucs qui me sont chers. Et il y avait une autre question.
Alors la question, on va parler aussi évidemment de la politique éditoriale, parce que ça, c'est extrêmement important. J'imagine que vous publiez évidemment pas n'importe qui, n'importe quoi. Est-ce que vous acceptez les manuscrits, ou est-ce que vous êtes plutôt à demander à des auteurs que vous aimez des manuscrits?
Alors non, je suis plutôt dans une politique où je reçois des manuscrits, j'accepte des manuscrits que je reçois, donc ça peut être par mail, comme Mylène Tournier qui m'a envoyé son premier manuscrit par mail, ou d'autres, et aussi maintenant par le bouche-à-oreille, par des amis d'auteurs et d'auteureux qui m'envoient des textes, mais... Je demande assez, je ne fais pas de commande en fait.
Alors la ligne éditoriale, ça c'est important, qu'est-ce que vous attendez d'un livre?
Alors un livre, il faut qu'il mette une gifle en fait. Il faut qu'il fasse tomber de ma chaise, enfin un texte avant de parler de livre. Les textes en tout cas que je lis, il faut vraiment que ça me mette un coup au cœur et à la tête. Et donc c'est et aussi c'est un coup de cœur. Voilà, il met un coup et c'est aussi un coup de cœur puisque il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'il y ait un courant, un échange. Et donc ça arrive pour tous les textes que je publie. Après, en parlant de ligne éditoriale, je sais pas si je pourrais la qualifier. En tout cas, j'essaye d'être attentif à ce que je lis, ce que je reçois. Il se passe beaucoup de choses dans des écritures très différentes, formellement et au niveau du contenu. Donc moi, j'ai pas d'idée de ce que peut être la poésie, de ce que doit être la poésie. C'est simplement essayer de voir ce qui émerge. Et après, il y a des choses auxquelles je suis plus ou moins sensible. Et je suis aussi, étant donné que je publie que 7 à 8 titres par an, obligé de faire des choix drastiques, et souvent frustrants. Enfin, je reçois de plus en plus de textes très dignes d'intérêt, mais je ne peux pas tout prendre, et donc voilà.
C'est la rançon du succès.
C'est un peu la rançon du succès, oui. On peut dire ça. Moi.
Alors, vous avez dit un coup au cœur et un coup à la tête. Un coup au cœur, donc il faut qu'il y ait de l'émotion.
Il faut qu'il y ait de l'émotion dans le cœur et dans la tête, oui, dans les deux. Enfin, la tête, c'est peut-être plus, je pensais plus à la langue, peut-être une gymnastique formelle, un truc au niveau du langage proprement dit, travail de la langue proprement dit qui se passe, donc que je mets plus dans la tête. Et au cœur, il faut que ce soit l'émotion, évidemment, ouais, l'émotion brute, le truc qu'on maîtrise pas, quoi. Voilà, donc c'est un mélange des deux, d'intérêt pour le travail sur la langue même, sur l'écriture, et puis l'émotion qu'elle porte. Qui s'en dégage.
Alors avant de parler peut-être de l'actualité de l'Hurlure, je voudrais qu'on dise un mot quand même de Mylène Tournier, parce que, alors pourquoi elle ? Parce que c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, que nous on a aussi accueilli dans notre émission, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Donc l'autre jour, c'est le prix SGDL, donc Révélation de Poésie 2021, c'est évidemment aussi une récompense pour l'éditeur. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, on est très. Enfin, j'en suis très content, bien sûr, pour Mylène et puis évidemment pour moi. Je vais pas bouder mon plaisir. C'est un et surtout c'est des prix. Enfin, recevoir un prix. Bon, moi, c'est le premier en tant qu'éditeur. On s'y attend pas. Donc c'est vraiment une surprise. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et en plus, c'est un très beau prix, le prix Révélation de Poésie SGDL de la Société des Gens de Lettres. Donc c'est un prix qui compte dans le milieu de la poésie. Donc oui, évidemment, je suis très content pour elle et pour moi. Et
la rencontre avec Mylène Tournier.
Alors la rencontre avec Mylène Tournier, c'est un parmel. Donc ça s'est fait vraiment. Elle m'a envoyé. Elle était venue, mais sans se présenter. En 2018, je crois, sur le marché de la poésie, elle avait trouvé les livres juste graphiquement sympathiques. C'est ce qu'elle m'a dit plus tard, quand je lui ai demandé pourquoi elle m'avait envoyé son texte. Et donc, quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé par mail l'autre jour, enfin le manuscrit de l'autre jour, qui est devenu un livre. Et puis là, on a donc sorti depuis Je t'aime comme. Et il y a son troisième recueil qui sort tout début septembre, voilà, qui est en cours d'impression, qui s'appelle Se coltiner et grandir, et qui est un texte magnifique également. Un grand texte.
Alors, c'est un coup au cœur, évidemment. Mylène Tournier, un coup à la tête aussi, il y a tout. Hein.
Oui, il y a tout. Oui, Mylène, c'est coup au cœur, à la tête, et même plus haut. Elle a une écriture d'une puissance. Elle est vraiment, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est une poétesse qui est vraiment dans l'émotion brute. Elle envoie des décharges comme ça d'émotions, et en même temps, il y a un travail sur la langue, sur l'oralité, sur sa façon de casser la grammaire, enfin de la pousser vraiment dans ses retranchements, qui est assez incroyable. Et tout ça, ça quand on la lit, c'est en même temps, c'est très facile à lire. Enfin, c'est pas du tout. Elle nous parle, et je pense qu'elle parle à beaucoup de gens. Et c'est vrai que on parle de plus en plus d'elle, je trouve, parce qu'elle est. Elle plaît à la fois aux gens qui lisent pas forcément d'habitude de la poésie, qu'à des gens qui sont plus familiers d'œuvres de poésie. Donc
c'est la vie même.
Oui, c'est la vie même. Oui. Et en plus, elle est vraiment dans son écriture. C'est une poésie existentielle qui parle de l'amour, de la famille, de la mort, de la foi, parce qu'elle est croyante. C'est plein d'interrogations qu'on a tous à différents niveaux et qu'on formule tous de manière différente, et qu'elle arrive à formuler avec une écriture incroyable.
Il nous reste deux petites minutes, peut-être présenter un ou deux autres livres, l'actualité.
Alors l'actualité, là, je viens de sortir début mai une nouvelle traduction d'un recueil de Christine de Pizan qui s'appelle « 100 balades d'amants et de dames ». Donc Christine de Pizan, c'est une poétesse de la fin, enfin qui est entre le Moyen-Âge et la Renaissance, contemporaine de Jeanne d'Arc, qu'on considère, qu'on a redécouverte il y a quelques années, qu'on considère aujourd'hui comme la première féministe européenne, au sens où elle a vécu, c'est la première femme de lettres qu'on connaît en tout cas, qui a vécu de sa plume dans une société qui était carrément misogyne et où la femme en tant que telle n'existait quasiment pas. Elle a été veuve très tôt et elle a décidé de vivre de l'écriture. Elle a écrit des recueils de poésie, mais aussi des traités sur l'armement, enfin des traités de chevalerie, des choses qui étaient clairement réservées aux hommes. Voilà. Et donc ce recueil 100 balades d'amants et de dames, c'est son chef-d'œuvre de poésie. Et là, je l'ai publié dans une nouvelle traduction qui respecte au plus près à la fois les schémas métriques, rythmiques, et qui en même temps est tout à fait fluide et très très lisible, remise dans la langue d'aujourd'hui, dans le français contemporain. Et du coup, on l'a publié en édition bilingue pour avoir un dialogue. C'est assez étonnant de voir la traduction, qui est toujours aussi une interprétation, quelque part, d'un texte. Donc là, on a mis le moyen français et le français contemporain en miroir pour que ça dialogue, et ça marche très très bien.
C'est une façon de vous inscrire dans un temps long, finalement
C'est une belle idée. Je l'avais pas du tout formulé. En fait, c'est vraiment les projets se présentent un peu. Voilà, le projet est arrivé, il sort maintenant. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'intéresse aussi. Alors, je fais peu de rééditions, mais j'ai réédité aussi une édition des Vers nouveaux de Rimbaud par un poète qui s'appelle Ivar Schwavard. Ça m'intéresse aussi de revenir sur le passé, puisque les textes travaillent toujours. Il y a pas de, ils nous parlent toujours. Les grands textes, en tout cas, quelle que soit l'époque à laquelle ils aient été écrits, ils nous parlent toujours aujourd'hui. Et ce texte, par exemple, de Christine de Pizan, où il est question de féminisme, de la place de la femme dans la société, il est évidemment plus que jamais d'actualité.
Voilà. Ivar Schwavard, c'est le patois Picard aussi.
Oui, aussi ouais.
Et moi, je mets ça avec l'Hurlure, le patois Bosseron.
Oui, on peut. Et le premier livre que j'ai publié en coédition avec mon camarade du Corridor Bleu, c'était le grand œuvre de Schwavard qui s'appelle Cadavre grand m'a raconté, anthologie de la poésie des fous et des crétins dans le nord de la France, et qui mélange. Alors, ça revisite 5 siècles de poésie française, chansons populaires, poésie picarde, patois, argot, voilà, jusqu'aux surréalistes les plus récents. Donc oui, c'est un livre monde comme ça. Donc ça peut tout à fait coller, oui.
Merci beaucoup. Vous allez peut-être nous donner, je ne sais pas, soit un numéro de téléphone ou peut-être plutôt l'adresse du site.
Oui, l'adresse du site, alors c'est www.lurlure.net. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Non content d'être un excellent éditeur, Emmanuel Carreau est un homme délicieux. Il en a fait la preuve lors de cette interview qu'il m'a très gentiment accordée. Tout de suite, nous retrouvons Cédric Merlan pour une lecture à voix haute de Mylène Tournier.
C'est l'après-midi des rues qui ne mène plus au magasin. Les petites enfilades de cordonniers, boulangers, supermarchés et vitriers, mais qui passent entre les maisons, directement presque entre les cuisines et les grandes portes de garage. On est dans la patience profonde des rues résidentielles qui attendent, ce soir, le retour des voitures. On est sous l'univers et dans l'éternité des rues résidentielles, sans y avoir de maisons et avec des airs alors de cambrioleuses, de qui vient repérer, comme viennent dans les quartiers résidentiels les agents immobiliers spécialisés quartier résidentiel, un sandwich dans le sac et l'appareil photo au cou. Et s'ils revenaient le soir, ils ne reconnaîtraient plus les maisons résidentielles qu'aujourd'hui ils ont, entre 12 et 16, longuement photographiées, comme s'anime la nuit, dans les salles de musées du monde, une à une, toutes les figures de Hopper, et cette surprise qu'on les entend éternuer. L'air est déjà chaud du matin qui s'enroule. La ville désormais est liquide, qu'on avait jusque-là fait tenir debout, avec des rigidités d'allumettes derrière chaque chose, parce qu'on n'était pas encore prête. Des pas, chaussures par deux, sans la silhouette. Un oiseau insiste, on ne comprend pas. La ville, un grand volet chaud, une respiration d'arbre qui s'anime, on dirait du dedans, d'autre chose que du vent. Des travaux, scie et perceuse. La belle bâtisse en vieille pierre équilibre son silence et ses fenêtres. Les travaux, scie et perceuse, se sont tus. On ne les a pas entendus finir. L'approche lente d'un avion. Le siècle à venir est ce qui restera du matin au volet chaud. J'ouvre les yeux. Le bout d'une grue qui dépasse. Du ciel. Des lampadaires blancs, leur tête de nonne contemporaine. Le dos d'une camionnette. L'arbre qui respirait. Ma propre ombre. Je te parlerai comme un long chien couché peut toujours se lever. Je te parlerai comme l'humain surveille le chien couché qui sans doute va se lever, à tout moment se lever. Je te parlerai comme le chien dort ici depuis 2 heures. Je te parlerai comme l'épicier en face, c'est bien lui que le chien ne se lèvera pas, et d'ailleurs peut-être est-il mort. Je te parlerai comme un long chien couché qui a 1 mètre au moins entre ses oreilles et ses pattes arrière. Je te parlerai comme le chien finalement se lève, surprenant l'épicier qui ne s'y attendait pas, mais surprenant tout autant l'homme tout à l'heure qui s'y attendait. Je te parlerai comme un homme qui était un chien, qui est un loup. Je te parlerai comme le gardien de nuit de l'immense décharge de l'immense ville. Je te parlerai vite et dans le noir, le gardien de nuit qui passe un marché avec les grosses entreprises de venir jeter leurs ordures la nuit, sans déclarer et sans payer alors la taxe, selon le poids et quel type de déchets, et seulement payer un peu, mais moins, lui, le gardien de nuit. Je te parlerai comme le gardien de nuit fait passer les entreprises la nuit par une autre entrée que l'officiel. Je te parlerai comme s'écroulent dans le noir les ordures sur déjà les ordures. Je te parlerai comme le gardien de nuit marche de nuit sur les déchets et déchire le noir de sa lampe torche pour traquer ce qui, dans les déchets, est un déchet utile, un déchet gagnant, un déchet riche, câble électrique et bout de plastique recyclable. Je te parlerai comme une mer, la décharge vue du ciel. Je te parlerai en rond, les 1000 mouettes à tournoyer au-dessus de la décharge de jour, et piquer, foncer, chiper. Je te parlerai comme les hommes du soir viennent, lampe frontale et pique à glace, chercher l'aluminium à recycler, et vendre pour en refaire casserole et marmite, cuivre et fer. Et les hommes, avant de fouiller, se saoulent tant ça pue. Et même si les hommes, par contre, voudraient pas qu'on régule et qu'une loi vienne voir de trop près la décharge, je te parlerai comme le gardien de nuit le jour. Je te parlerai comme le gardien de jour prend le relais de celui de nuit. Je te parlerai comme le gardien de nuit par veiller sa mère malade et alors donne son gilet jaune à son ami et une partie de sa paix et lui explique « Tu te mets ici ». Et si on te demande, tu dis « Je suis le gardien de nuit. Je suis le gardien de nuit. » Qui voulez-vous sinon que je sois ? Je suis le gardien de nuit, sinon ce serait qui ? Tu les entends, mes cheveux blanchir ? Ouvre-toi, ouvre-toi, je t'en prie, ouvre-toi. Ouvre-toi comme une pierre. J'ai pleuré dehors devant les pierres. Il y avait le monde partout, alors j'ai fermé la pierre. J'abandonne ici mes os. Je pars nu, je ne suis pas le premier jour du monde. Normalement, les mots n'auraient jamais existé. J'ai rêvé cette nuit, j'étais le Big Bang. J'étais le Big Bang, j'avais un vieux rêve. J'ai voulu revenir à ma naissance, refermer ma naissance sur moi et redécouvrir tout. On aura finalement la résilience de l'eau et du savon. On avait mis présent en prison. J'ai rêvé cette nuit, j'étais une grotte. J'étais une grotte, un monde à ma mesure. J'avais la force des nids de tenir. J'ai rêvé, j'étais la sortie du premier loup et le silence autour du cri et après. J'ai rêvé, j'étais une grotte. J'avais la forme que me laissait l'obscurité. J'étais la lumière spéciale des grottes, loin de sa source et étrangement très intacte. J'ai rêvé, j'étais l'animal venu mourir ce soir devant sa grotte. J'ai rêvé cette nuit, j'étais un grain de sel. J'étais un grain de sel sauvage d'avant les mines et les techniques d'extraction. J'ai rêvé, j'étais la faille entre rêve et réel, trempé dans des cristaux de sel. J'ai rêvé, j'étais Antigone qui la nuit va creuser dans du sel une petite tombe blanche pour son frère. Bien sûr, poésie, c'est écrire blanc sur blanc. J'ai rêvé, j'étais la nuque, retournée d'Orphée, Eurydice, interdite. J'ai rêvé, j'étais l'amour préservé sous le sel noir d'être mort. J'ai rêvé, j'étais le sourire d'Eurydice, en statue de sel. Son merveilleux Orphée, de s'être retourné. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais un nuage. J'étais l'enfant qui courait dans son rêve, des nuages autour des chevilles. J'ai rêvé cette nuit, j'étais la gardienne du paradis. J'ai rêvé d'une énigme. Devant vous se trouvent deux portes. L'une mène vers le paradis et l'autre vers l'enfer. Viens, je disais à quelqu'un en venant en fait moi vers lui. Viens. Devant chaque porte se trouve un gardien. L'un dit la vérité et l'autre ment toujours. J'ai rêvé, j'étais la gardienne qui devient la porte qu'elle garde. Vous n'avez le droit de ne poser qu'une seule question à l'un des deux gardiens. Un gardien finit toujours par s'asseoir devant la porte qu'il veille. Laquelle des deux portes mène vers le paradis? J'ai rêvé, j'étais le gardien qui n'a plus besoin, même, de vérifier si sa porte, il la sent. J'ai rêvé, j'étais le gardien qui la nuit rentre au paradis qu'il garde. J'ai rêvé, j'étais le rêve illimité du gardien. Cette sorte de rêve, ce doit être de ceux qu'inspirent les rudes vigies devant une porte. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais une goutte d'eau. J'ai fait durcir mes larmes comme on écrit ses rêves. J'étais une larme avec des angles. Je rêvais un rêve triste de voir le monde avec pas mes yeux, mais avec mes larmes. J'ai rêvé, j'étais la consolation du monde. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais le soleil. J'étais le soleil, je m'enfonçais dans un ciel qui n'existait pas encore. J'étais un soleil entre chaque voyelle, chaque cheveu. Un soleil trié. J'ai rêvé, j'écoutais le soleil briller. J'ai rêvé, j'étais le soleil, je me cognais au ciel. J'étais un rayon clandestin du soleil, parmi les autres rayons nés avec sa naissance. J'étais un rayon arraché, pour suspendre la grande contagion de lumière. J'étais le soleil, et je cherchais mon ombre. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais une pierre. J'étais une pierre, j'aimais une autre pierre. J'étais l'entière soumission au temps. J'ai rêvé, j'étais une pierre. C'était l'étrange vie des morts. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais un vertige. Il n'y a aucune solution. C'est ça le miracle. Demeure en ton vertige. J'ai rêvé, cette nuit, j'étais un fantôme. J'étais un fantôme là de mon monde indolore et blanc. J'avais envie de connaître et sentir la peau, les choses, le vivant, le vent et courir. J'ai choisi ma maison de fantôme, un petit appartement en fait, avec dedans une fille. Voilà, là c'est elle, cette fille. Un fantôme pour apparaître, il faut attendre le moment opportun. Ça veut dire quand ça se voit pas. J'ai rêvé, j'étais un fantôme. Je voulais serrer quelqu'un dans mes bras et qu'on respire ensemble. Juste ça, qu'on respire ensemble. Être un fantôme, c'est être dans la tête et la vie de quelqu'un, comme un imprimé sur un vêtement. Le dessin imprimé, comme un fantôme, est tout le temps là, mais soi-même on l'oublie. Et c'est les autres qui remarquent. Ah tiens, marrant sur ton sweat le dessin. Ah tiens, marrant dans ta tête, ton fantôme. Prendre dans les bras ou être pris, c'est pareil. Le même endroit de calme. J'apparaissais de plus en plus souvent et sans attendre le moment opportun. Je la serrais dans mes bras fort. J'étais là de plus en plus souvent. J'étais dans sa gorge, dans ses mots. Elle aussi changeait. Regarde sur ma main, les lignes de ma main, elles bougent. Tu m'as donné un destin. Un destin, c'est ce qui se donne en dernier, à la toute fin.
Voilà, c'était une très belle lecture par Cédric Merland de poèmes extraits du livre de Mylène Tournier, L'autre jour, paru aux éditions L'Hurlure, un livre qui a obtenu le prix SGDL, Société des gens du livre, 2021. Un grand bravo à Mylène que nous aimons beaucoup sur La Route Inconnue. Je vous propose d'écouter un peu de musique avant de rejoindre Jacques Morin.
D'un bobo bien habillé, et pour ne pas oublier, elle danse sous les peupliers mouillés. Ne pas oublier les pas que lui ont appris là-bas, sa maman et son papa, elle danse pour ça. Elle danse le tropique, elle danse l'équateur. Les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur, la voix, elle danse là-bas. Son pays pouille pillé, son pays tout dépouillé, son président voilier. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloque l'ascenseur, rigole, disent elle est folle. De boue rouge, hors toi de paille. À la télé hier au soir, ils ont dit qu'à Gibraltar, un bateau s'est retourné, la mer était démontée. Ce sont des enfants perdus, les larmes ont brouillé sa vue, le passeur leur avait dit le mot paradis. Elle danse la poussière, elle danse la misère, les vendeurs de shit qui trafiquent derrière, la voix, elle danse là-bas. Sous les peupliers mouillés.
Alain Souchon, Elle danse, extrait de l'album Écoutez d'où ma peine vient. On rejoint sans plus tarder notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges, pour sa Revue des Revues.
Revue du mois audio numéro 52. Traction Brabant, numéro 100. C'est le genre de numéro qui claque. Quand on sait ce que ça veut dire derrière, travail, ténacité, pugnacité, un autre terme compense ces qualités combatives et rudes que le revuiste Patrice Maltaverne emploie deux fois dans son édito, à savoir passion. Et là, on passe dans l'ordre du plaisir et de la découverte, et de tout ce qui fait que la revue tient du domaine de l'enchantement et du dépassement. 100 numéros à réunir, à rassembler, à choisir, à mettre en place, à mettre en page, et pour le coup, le rédac-chef a choisi une numérotation unique pour remplacer le désordre habituel et foutraque, 100, bien sûr. Quelques autres chiffres à ce niveau pour donner le tournis. 18 ans depuis sa création en 2004 et 600 auteurs, 100 subventions, 100 SANS, comités de lecture et 100 thèmes imposés, ajoute Patrice Maltaverne, qui tient donc la boutique à bout de bras tout seul. Dans ce numéro spécial, on ne déroge pas à la règle ordinaire. Environ 24 auteurs qui se partagent les 52 pages de la livraison, une page chacun la plupart du temps, quelquefois deux, rarement davantage, avec pas mal d'illustrations parallèles, des mêmes parfois, un peu dans tous les sens, ce qui donne au journal un côté fanzine, avec adresse mail des participants, si tant est qu'on ait envie de les contacter. Et dans le secteur image, un hommage à Pierre Vella, Traction Brabant, c'est aussi un mélange de poèmes, de prose poétique, de poèmes en prose. Si ce n'est pas toujours réussi, ça demeure au moins passable. Ça commence comme ça avec Sébastien Couillec. Les mots sont moches, ils sont pleins de lettres, ça me dégoûte. Et Florent Agnello s'accorde toutes les excuses possibles en commençant ces trois strophes ainsi. J'ai tout fait comme il faut. Si ça chauffe, c'est pas ma faute. Rien à me reprocher, non, vous ne trouverez rien. Marine Gianguerre-Gorio consigne « Le printemps muselle et ne laisse aucune place aux nuances de l'âme. » Frédéric Dechaux conclut « Je sais surtout que je suis absurde d'abord pour moi. » Robert Roman bute sur 18 vers et propositions avant de trouver la bonne raison. Laurent Bouisset termine sa page par ce faux dialogue. Je me dis, quelle faute cet humain a-t-il commise ? Rien, répond-il en riant. J'ai vécu. Régis Belloy change le règne animal. Dans la forêt, il n'y a pas de chien. Ce sont les chevreuils qui aboient. Marc Tison commence courageusement son texte ainsi. On y va comme on peut. Julien Boutreux écrit des poèmes interstellaires. Des aubes bleues aux doigts de rose, un jour sur deux. Éric de Jaeger s'est toujours joué sur les notions, ainsi oppose-t-il pacifique carotte et belliqueux vegan. Dorothée Cole résume, l'image est un trampoline de poche. Pour la critique centrale, c'est Florent Tognello qui s'y colle à propos d'un recueil d'Heptane Fraction, mélange de tendresse et de m'en foutisme belliqueux. Trois pages pour Gaston Vieux-Jeu, la radio fait du bruit sans casser le silence. Il évoque aussi le vacarme monotone des mots et le train-train de nos étreintes. Quatre pages pour Isabelle Morineau, avec ce retour de plage, arrêt en surface grande et son rayon frais qui, en claquette, fait des dents claquer. Alain Jean Massé et ses jeux de mots. Daniel Birnbaum qui synthétise. Ne que, c'est le signe. Enfin, Michel Cossa, vaste usine de coutellerie où finissent les os rouillés. Retour au roi de la fête PM, avec ses insipides finissants, qui parlent poésie. Cette vieille dame, un peu ridicule, dont la plupart se détournent, m'a servi de principal accélérateur vital. 5 euros. Association Le Citron Gare, appartement 245, 1 rue des Couvents, 57-950, Montigny-les-Metz. À la prochaine fois.
Vous retrouverez Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges et créateur de cette revue qui est notre partenaire et nous en sommes fiers. Vous retrouvez Jacques Morin le mois prochain, promis. À présent, courons rejoindre Louis Dubot qui nous attend en Vendée dans... Eh bien, dans son jardin, figurez-vous.
Le jardin est un livre, et réciproquement. Malgré la canicule, la sécheresse et autres calamités virales et belliqueuses cette année, trois livres se sont poussés jusqu'à ma cabane de jardinier. De trois poètes aux écritures bien typées et très différentes, comme j'aime à en lire. Jean-Claude Martin, Colette Andriot et Romain Fustier. Chacun évoque le jardin, et ce sont trois jardins écrits dans la langue caractéristique et bien personnalisée de chacun. Jean-Claude Martin invite à lire un jardin. Tout simplement, pourrait-on penser. C'est mal le connaître. Car en quelques dizaines de pages, il nous fait entrer carrément dans son univers poétique et on propose un condensé de ses thèmes familiers et de sa façon bien à lui de travailler le terreau langagier. Semblable au carré légumier d'un jardin, de courte prose, tirée au cordeau et ensemencée de notations associées selon l'humeur des mots ou du moment, laisse découvrir une sorte de désenchantement existentiel à peine feutré, parfois zébré par un éclair d'humour abrupt ou d'autodérision lucide. Ceux qui connaissent déjà le petit monde martinien s'en réjouiront avec délectation. Les autres, certes un tantinet déconcerté à l'abord, en jouiront à leur tour sans réserve. Et il suffit d'un poème en belle muraison pour goûter d'emblée à la quintessence de la poésie de Jean-Claude Martin. Par exemple, l'haleine du jardin le soir ne peut être comparée qu'à celle d'une amante ou d'un amant. Il va sans dire que le jardin ne doit pas s'être gavé à midi de flageolets. Le baiser qui se pose ce soir sur votre épaule est parfumé, à bonne température, pas de bise glacée qui vous saisirait d'effroi, une caresse donnant envie de partager, une nuit, sinon chaude, du moins bienheureuse. Le soir au jardin doit être aimé. Il sera toujours temps demain d'être désespéré. C'est un autre univers où les roses remplacent la morosité que Colette Andriot et sa complice Valérie Linder, la première avec les mots, la seconde avec les images, écrivent à quatre mains pour jardiner un beau livre-objet, « Tant que chantent les merles ». Le titre laisse présupposer ce qui est essentiel dans le jardin. L'enchantement ne peut naître et avoir de sens que, par et pour le vivant, dans sa biodiversité qui volette, vrombit, gazouille, siffle et persifle, tisse ou se chamaille, libellule bleue la belle, troupeau d'escargots, rouge-gorge sauvageon solitaire, écharpe des tourneaux ou hérissons endormis. Les mots, à l'instar des fleurs, des insectes, des légumes, des oiseaux ou du vent, les mots sont sauvages dans des vers courts et rythmés, de sorte que le poème tout entier se glisse dans le mot « jardin ». Il est jardin fouillis, jardin de libre pouce, jardin de surprise. Libre pouce et surprise aussi des images de la plasticienne qui s'éclatent sur la page dans une folie de couleurs et de parfums. Serait-ce l'Éden retrouvé ? Pas sûr, puisque c'est un jardin minuscule près de la grande ville. Et les échos d'une guerre qui flambe à un endroit du monde ou d'une épidémie qui sème la peur atteste qu'on n'y est pas isolé du monde. Le jardin, comme la poésie à vrai dire, c'est du temps heureux et libre, en suspens dans le bruit du monde. Soudain, un chat devant moi, surpris de me voir, immobile, lisant. Échange de regards, il passait. Pourquoi troubler le silence du monde ? Le jardin prétexte de Jean-Claude Martin et celui quasi édénique de Colette Andriot convergent vers un même pays potager. C'est le titre du petit livre de Romain Fustier, un de ses précieux bijoux de typographie à l'ancienne, comme s'est si bien ancré Jacques Renoux dans son atelier de Groutel. Les très courts poèmes sont écrits au présent du passé, qui est, selon saint Augustin, celui de la mémoire. Souvenir donc d'un oncle jardinier qui a garni au pied d'un compost affectif et nourricier l'enfance du poète. Les poèmes sont d'une sobre concision, petite note d'affection comme autant d'échos de la personnalité discrète du tonton taiseux. Cela aurait pu dégénérer dans une célébration attendue et mièvre si les mots n'étaient pas ceux d'un poète. Mais ici, on se rappelle comme si, avec une émotion retenue au plus près des mots. Les morts sont vivants, ne meurent pas, tant qu'on a les mots pour les dire. et la poésie s'en tient aux mots. Entre parenthèses et pour l'anecdote, le neveu poète Romain Fustier a naguère prolongé le pays potager du Tonton en animant durant plusieurs années le festival Poète au potager à Montluçon, dont tous les poètes invités, et même ceux qui ne l'ont jamais été, se souviennent avec une nostalgie heureuse. Le dernier poème du livre, « Je tenterai de continuer à m'habiter de tes ondes, ta tranquillité, à cultiver ce que tu as semé. » On peut commander ces trois livres en librairie ou chez les éditeurs. Jean-Claude Martin, « Lire un jardin », édition Tarabuste, rue du Fort, 36 170 Saint-Benoît-du-Sault. Colette Andriot et Valérie Linder, « Tant que chantent les merles », édition Atelier des Noyers, 7 rue des Noyers, 21 160 Périgny-les-Dijon. Romain Fustier, « Un même pays potager », Atelier de Groutel, 25 Groutel, 72 610 Champfleur.
Chanter, c'est lancer des ballons qu'on tape pour que quelqu'un les attrape et que ça bibappe loula. Des ballons d'hélium pour faire monter les hommes au-dessus de la pluie dans le solarium. Chanter, c'est lancer des balles, casser des verrières et les filets sains à l'air. Regarde tomber les bouts de verre pour qu'elle trouve notre gage de musique et de langage, joli à défaut du visage. Chanter, c'est lancer des balles. Derrière une vitre, pour pas qu'une petite nous quitte, ou pour que la vie passe plus vite. Seul contre un mur, sur une scène contre nature, ou en se cachant la figure. Rapper morose pour changer les choses, et même en désespoir de cause. Des blagues au téléphone pour faire rire les personnes, et la mère de Jim Morrison.
Magnifique chanson d'Alain Souchon, chanter c'est lancer des palba, où j'ai décidé que nous passerions cette heure sur la route inconnue en compagnie de notre ami Alain Souchon. Pour finir, eh bien, je vous propose d'écouter la chronique de Georges Catalot qui nous propose aujourd'hui encore une confrontation, on va dire, entre un poète vivant et un poète qui nous a quittés. Là sont deux merveilleux auteurs. Georges Catalot, je tire ma révérence pour ce qui me concerne. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancienne et on se retrouve bien évidemment dans une quinzaine sur la route inconnue.
Bonjour, poète absent et poète présent, numéro 11, avec une ouverture, une citation de Pierre Reverdy. La poésie n'est pas simple jeu de l'esprit. Et comment avec aujourd'hui un couple qui va associer Pierre Gabriel à Casimir Pratt. Pierre Gabriel était né en 1926, décédé en 1994. Et dès les années 50-70, l'autodidacte dit distillateur d'Armagnac, que fut Pierre Gabriel, fit entendre une voix qui le distingua dans un registre lyrique, sans épanchement, où chaque mot et chaque image sont des perles de poésie sorties d'un alambic magique, d'une empathie naturelle et d'une remarquable générosité. Pierre Gabriel répondait présent chaque fois qu'il fallait avancer et construire. Ainsi, il ne disait jamais non aux revuistes qui le contactaient. Fidèle à son éditeur Rougerie, il n'a jamais cédé aux sirènes des modes successives qui ont pollué, hélas, cette période. Créateur de l'originale revue Au Pays, introuvable bien sûr, il participa activement au développement des journées de poésie de Rodez durant plusieurs décennies, ainsi que d'autres lieux où l'on défendait une poésie à taille humaine. Le modeste Pierre Gabriel ne tirait aucune gloriole des nombreux prix qui lui furent décernés, comme le prix Artaud, le prix Apollinaire, le prix Prométhée, etc. Voilà, quand on lit Pierre Gabriel, c'est un irrésistible magnétisme qui opère dès les premiers poèmes, au point que l'on se sent entraîné sur un territoire où l'espoir s'enracine au-delà des multiples épreuves d'un réel tourmenté. Comme hélas pour tant d'autres poètes disparus, il est difficile de se procurer les livres de Pierre Gabriel, si ce n'est auprès de deux enseignes, Rougerie et l'arrière-pays, dont les coordonnées peuvent se trouver sur Internet auprès de Olivier Rougerie et de Josette Ségurin. Voilà. J'ai associé à Pierre Gabriel Casimir Prat, et pour cause. Casimir Prat est né en 1955. Il est l'absolu de l'effacement et de la discrétion en poésie, et qui pourrait lui être accordée. Ses premiers écrits, parus dans les années 80-90, ont vu le jour dans des revues, toujours les revues, ancrées en région toulousaine. Texture de Michel Baglin, Multiple d'Henri Heurtebise et Tribu de Serge Peille. Adorné d'un avant-propos de Francis Ponge, excusez du peu, lui qui ne livrait jamais pratiquement de préface ou d'avant-propos, dont avec un avant-propos de Francis Ponge, sa première et mince plaquette intitulée « L'horreur ou la merveille » allait d'emblée donner ce ton inimitable qui se poursuivra jusqu'à nos jours dans un registre élégiaque et intimiste. C'est surtout en 1985 que va se déployer l'univers de Casimir Prat avec la parution de « Elles habitent le soir ». Ce livre, réédité trois fois, obtint le prix Artaud en 1989. Puis c'est Rougerie qui éditera trois de ses livres et « L'arrière-pays » pour deux autres. Après avoir obtenu le prix Max-Paul Fouché, lapsus, pour « Tout est cendre », Casimir Prat publiera « Sait-on jamais » chez l'Arpenteur Gallimard en 2005, seul livre disponible à ce jour. Accaparé par une activité professionnelle oppressante, il était libraire à la FNAC au centre de Toulouse avant de prendre sa retraite. Casimir Prat a dû se mettre en retrait des activités poétiques dans un long silence qui se poursuit jusqu'à présent, exception faite pour quelques rares parutions en revue. Mais tout laisse à penser que le feu couve sous la cendre et que de nombreux lecteurs attendent avec impatience un grand œuvre en gestation autour du célèbre mythe d'Antigone. Soyons patients, espérons, attendons. On va conclure cette chronique avec une citation de Jean Malrieu, qui aimait beaucoup Casimir Prat, puisqu'il avait participé à la réédition des œuvres complètes de, ou presque, de Jean Malrieu. La poésie est un signe qui rassemble.
Sur le bord de la rivière, j'avais des illusions dans ma main que tu laissais sous ton pullover. De mal penser la faiblesse de n'avoir pas fait d'études, les chansons de ma jeunesse et de Robert Zimmerman, l'altitude. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. J'ai perdu mon allégresse sur des bateaux de conquête. J'ai perdu par leur vitesse quelque chose que dans mon cœur je regrette. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oh, des regrets, des regrets, des regrets. Citroën, où sont les gens dedans de mon baptême latin, bal d'argent. Je voudrais que tout revienne alors que tout est passé. Et je chante à perdre haleine que je n'ai que des regrets, des regrets. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets.
Depuis les balcons de la ville, on voit des grues se balancer, des fumées des vieux magazines qui traînent dans les rues gelées, des voitures automobiles. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. Depuis les balcons de la ville, on entend le bruit des sirènes, des chansons vieilles de la mer qui sortent des caves de la Seine, des chansons de matelots. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. Des rendez-vous près des statues, des fleurs qu'on jette dans les paniers de la gare de Montparnasse. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro.